Radio Okapi.
Le journal Sandra Sifa.
Bonjour et bienvenue. Le journal partira du Nord Kivu où des nouveaux affrontements entre la rébellion du M23 et l'armée nationale ont été signalés tôt ce matin dans le territoire de Niragongo. Au Kasaï oriental, beaucoup d'avancées dans la réhabilitation des quelques grandes artères principales de Mbujimayi. Le point dans ce journal avec Esther Ndalafina. Et puis l'invité du journal, c'est le professeur Serge Tshibangu. Il fait le point des consultations avec les groupes armés à l'issue de la mission mixte RDC-Kenya dans le cadre de la relance des pourparlers de Nairobi. Bienvenue à tous. Quelques heures après l'incursion des présumés rebelles à M23, très tôt ce matin, un calme précaire est signalé dans les groupements de Kibumba et Buumba. C'est dans le territoire de Niragongo, à une vingtaine de kilomètres de Goma. Les sources sur place indiquent que les deux groupements se vident de leurs habitants, alors que la présence des rebelles est signalée dans les villages situés à la frontière avec le Rwanda. Bernard Nyangi.
C'est entre 2h45 et 3h du matin que la position des FARDC, située sur la colline Nyundo, à moins d'un kilomètre de la route Goma-Rutshuru, groupement de Bumba, a été ciblée d'une attaque. Certains habitants de Kibumba parlent d'une attaque de l'armée rwandaise. D'autres sources parlent des rebelles du M23 qui, après leur défaite sur les collines Runyoni et Chanzu, reconquises hier par l'armée congolaise, ont débordé l'armée, passant par Kabuanga, Kabagana et Ngobera dans le parc pour attaquer Kibumba. Le porte-parole de Sokola 2, le lieutenant-colonel Guillaume Njike, affirme que l'armée, en réponse à cette attaque, a réussi à repousser l'ennemi qui se serait concentré, alors qu'il est, vers le village Gikeri, entre autres, à la frontière avec le Rwanda, selon d'autres sources. Depuis ce mardi matin, le groupement de Bumba et de Kibumba se vide de leurs habitants, qui prennent les directions de Rugari au nord ou de Kibati, Munigi et Goma au sud. Mais l'armée ainsi que d'autres acteurs locaux précisent que la circulation sur la route nationale numéro 2 n'est pas encore coupée, l'axe routier Goma-Kibumba-Rutshuru étant entièrement sous contrôle de l'armée congolaise. Goma, Bernard Dengangi, Radio Okapi.
Et puis en Ituri, un nouveau groupe d'autodéfense est opérationnel depuis quelques jours dans la chefferie de Baima Baniwangi, dans le territoire de Djougou. Selon des sources de sécurité, les autorités coutumières locales indiquent que certains jeunes ont résolu de prendre les armes pour se protéger contre l'artivisme de la CODECO et pallier à la défaillance de l'armée pour sécuriser leur milieu. Pour l'armée, aucune communauté ne peut prétendre assurer la sécurité de ses membres au risque d'être considérés comme des ennemis de la paix martiale Kizabiamungu.
Selon des sources sécuritaires, au cours d'une réunion le 13 mai 2022, les chefs coutumiers de Baima Baniwangi ont alerté les comités locaux de sécurité sur un groupe d'autodéfense en gestation dans la localité de Nyamamba, à 12 km au nord de Chomia. L'objectif est de protéger la population de cette entité contre les attaques de la CODECO qui sont récurrentes dans la zone. Certains jeunes munis d'AK-47 ont été même aperçus la semaine dernière dans les localités de Nyamamba et l'oignon du côté des monts Pli. Les 18 mai dernier, des instructeurs, tous anciens membres de l'armée ougandaise UPDF, chargés de la formation de cette milice, auraient traversé les lacs Albert avec une cargaison d'armes pour rejoindre ces jeunes armés à Nyamamba, affirment les mêmes sources. Les porte-parole de l'armée à Ituri condamnent l'instrumentalisation de certains jeunes à prendre les armes avec pour motif de se défendre ou de défendre leur communauté. Le lieutenant Gilles Ngongo précise que seules les forces armées ont le monopole de protéger la population contre toute agression. Tous nos efforts pour joindre les autorités coutumières de la chefferie de Baima Baniwangi n'ont pas abouti. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et puis ce rapport sur les massacres dans l'est de la RDC, d'après deux députés, Temos Yotama, député national, et Benza Yotama, tous élus de Butembo, 15 000 personnes auraient été massacrées dans l'est de la RDC entre septembre 2021 et mars 2022. Lors d'une conférence de presse tenue hier lundi 23 mai, ici à Kinshasa, ils ont appelé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à procéder à la réforme de l'armée. Temosio Tama l'a dit à Paul Matindo.
La période allant de septembre 2021 jusqu'en mars 2022, il y a plusieurs autres atrocités qui ont été prises en considération dans ce nouveau rapport. Nous avons abouti à plus de 15 000 personnes sauvagement massacrées pendant notre période d'étude. Et de deux, dans ce deuxième rapport, nous sommes revenus avec détail sur qui sont les vrais tueurs et pourquoi ils tuent. On a fait parler l'opinion. Un nombre important se sont prononcés par rapport à qui sont les tueurs. La majorité de nos enquêtés ont déclaré clairement que les tueurs, primo, les victimes ont parlé des infiltrés au sein de l'armée. Après brassage et mixage, les EDF n'ont pas resté en marge. Et d'une manière générale, ils sont motivés par la balkanisation. Vous savez, ce qui s'est passé au Soudan, il fallait mettre la population dans une souffrance extrême pour qu'au finish, d'elle-même demande le référendum d'autodétermination.
Toujours dans le même registre sécuritaire, la délégation conjointe de la présidence de la RDC et ambassade du Kenya se dit satisfaite et confiante de toutes les consultations avec les groupes armés, ce à l'issue de la mission qui a conduit cette délégation dans les provinces de l'Ituri, Nord-Kivu et Sud-Kivu. Le mandataire spécial du président de la République affirme avoir obtenu l'adhésion de la majorité des groupes armés à déposer le PDDRCS. Le professeur Serge Tshibangu apprécie l'accompagnement reçu de la MONUSCO et de toute la communauté internationale. Il a dit au micro de Emmanuel Elamandji Wakabedi.
La plupart des groupes armés et même des leaders des communautés, partout où nous sommes passés, sont pratiquement réceptifs par rapport à la main tendue de son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à déposer les armes, à rejoindre le programme PDDRCS, mais aussi un sentiment de satisfaction et de joie, surtout de la part des leaders de communautés qui se rendent compte, effectivement, d'ailleurs unanimement, que le chef de l'État déploie tous les efforts pour pouvoir amener la paix. Disons que depuis Nairobi 1, nous avons rencontré pratiquement 18 groupes armés. Dans les contrées sous contrôle, entre guillemets, de ces 18 groupes armés, nous avons observé effectivement une accalmie. Honnêtement, l'accompagnement de la communauté internationale, d'ailleurs représentée par la MONUSCO, est fantastique. Depuis le début, la MONUSCO a appuyé ce processus dans tous les domaines. Donc franchement, nous sommes très ravis de l'appui que nous recevons de la MONUSCO, de la communauté internationale. Nous sommes vraiment en train d'avancer grâce à ce soutien que nous recevons de tous ces partenaires de la communauté internationale.
Serge Tshibangu est à suivre à la fin du journal. Il est l'invité du jour. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde s'implique pour débloquer le fonds et faire accélérer la mise en œuvre du programme DDRCS, désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Il a présidé hier lundi la réunion du conseil d'administration du Fonds de cohérence pour la stabilisation en qualité de vice-président du comité de pilotage et co-président du dit conseil. 5 pays donateurs de ce fonds, qui est un instrument d'appui au PDDRCS, et quelques membres du gouvernement ont participé à cette réunion. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur résident, coordonnateur humanitaire, Bruno Le Marquis, a fait le compte rendu à la presse au terme de cette réunion. On l'écoute dans cet extrait proposé par Jeff Ngoy.
Alors la réunion de ce matin, c'est ce qu'on appelle la réunion du conseil d'administration du Fonds de cohérence pour la stabilisation, qui est un fonds qui est donc établi au sein des Nations Unies pour appuyer, travailler avec le gouvernement et le financement des bailleurs de fonds pour appuyer des actions de stabilisation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais depuis l'approbation de la nouvelle stratégie PDDRCS, ce fonds va maintenant devenir un instrument d'appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour laquelle, vis-à-vis de laquelle il y a énormément d'attentes de la part de la population dans l'Est de la RDC. Donc il y avait le besoin de cette réunion était très urgent pour qu'on puisse débloquer, prendre des décisions collégiales pour débloquer les fonds actuellement disponibles dans le fonds pour avancer sur le terrain avec la mise en œuvre du PDDRCS. Donc toutes les décisions ont été prises dans un très bon esprit et donc on va de l'avant avec ce fonds.
Selon le coordonnateur du PDDRCS, Tommy Tambwe, 14 millions de dollars américains sont déjà disponibles. Il a annoncé la nomination incessamment des coordonnateurs provinciaux en tant qu'acteurs clés avec les gouverneurs des provinces pour le démarrage rapide de certaines activités sur le terrain. Et puis, relance du rapatriement volontaire des réfugiés congolais vivant en Angola. Le HCR planifie des convois de retour pour fin juin prochain et les candidats au retour iront dans la province du Kwilu, du Kasaï et du Kasaï central. Dans un communiqué officiel dont copie nous est parvenue, la sous-délégation de cette agence onusienne à Kalanga explique que ces mouvements rentrent dans le cadre d'un accord tripartite signé entre le gouvernement congolais et le HCR en 2019. François Kadima nous en parle.
Commençant en octobre 2019, ce mouvement de retour volontaire ont été suspendus à cause de Covid-19. C'est à la suite de l'amélioration de la situation humanitaire que les trois parties ont décidé de relancer sur la patrimoine des réfugiés congolais se trouvant en Angola. Le candidat au retour sont pour la plupart les personnes qui avaient fui la guerre de Kamuina-Nsapu. Les déplacements d'Angola se feront par route, indique le ACR, qui, en collaboration avec la CNR, mène les démarches auprès des autorités des localités concernées pour avoir de façon temporaire des centres de transit. Ces espaces serviront des lieux de repos pour les rapatriés avant qu'ils ne regagnent leur milieu d'origine. C'est également dans ce contexte que le ACR, avec l'appui de ses partenaires, souligne avoir procédé à l'évaluation des routes Kananga, Kalamambuji, Bujimaï, Kikuit, Chikapa, Kamako. Signalons que le convoi se poursuivra au fur et à mesure que les nombres de candidats au retour augmentent, explique le ACR. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Au Kasaï oriental, quelques grandes artères principales de Mbujimaï sont actuellement accessibles à tous les engins roulants ainsi qu'aux piétons. Ces routes sont parmi les 11 retenues pour être réhabilitées et modernisées dans le cadre du projet Chile-Djelou. Leur état actuel attire les conducteurs, dont des véhicules et des motocyclistes, à rouler à vive allure au risque de créer des accidents de trafic routier. L'Office des voiries et drainages annonce pour bientôt la construction des dodanes pour pousser les conducteurs à réduire la vitesse sur certaines agglomérations. Esther Dalafina pour le reportage.
L'avenue Fachi, autrefois appelée Lusambo, qui provient de l'aéroport dans la commune de Bipemba, pour déboucher sur l'avenue Université, non loin du grand marché Bakwadianga, à près de 5 km, est actuellement sollicitée par les conducteurs de véhicules et de motocyclettes. Témoignage d'un conducteur.
À l'époque, il y avait des ravins qui s'est créé et qui ne permettaient pas la visibilité facile. C'est très plat et tout le monde peut passer et rouler avec jour.
Suite à l'état actuel des routes déjà réhabilitées, l'avenue Inga, qui était autrefois sollicitée, est presque désengorgé. Les piétons apprécient aussi l'état d'avancement des travaux.
Nos routes, vraiment, on a revêtu Mbujimaï.
Une année après le lancement des travaux Chile-Djelou, Trésor Kachala, directeur provincial de l'Office des voiries et drainage, affirme que les travaux avancent bien.
Nous avons atteint pratiquement 90% d'ouvrages d'assainissement. Nous avons déjà des couches de fondation sur 10 appels. Nous avons un nombre de kilométrages importants qui attend que la couche d'enrobée.
Signalons que la présidente du conseil d'administration de l'OVD séjourne en Mbujimaï depuis le week-end dernier pour se rendre également compte de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation et de modernisation de 25 km des routes. Esther Dalafina, Mbujimaï, Radio Kapi.
Actualité internationale. En Afrique, les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement s'ouvrent officiellement ce mardi 24 mai à Accra, au Ghana, reprise en partie en présentiel après 2 ans en visioconférence en raison de la pandémie de la Covid-19. Ces réunions constituent l'événement le plus important de l'année. Et puis ce mardi 24 mai marque les 3 mois depuis le début de la guerre en Ukraine, l'opération spéciale souhaitée par la Russie et qui n'aurait dû durer que quelques jours. Mais la guerre semble partie pour durer, comme le soulignent de plus en plus d'experts. Une guerre très violente sur le terrain et une guerre d'images et d'informations.
L'invité.
Au Sud Kivu, la délégation conjointe de la présidence de la RDC et ambassade du Kenya se dit satisfait et confiante de toutes les consultations avec les groupes armés. Ce à l'issue de la mission qui a conduit cette délégation dans les provinces de l'Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu. Quel est l'apport de la communauté internationale dans ce processus? Quel sort est réservé aux tireurs de ficelles qui financent ces groupes armés? Réponse avec le mandataire spécial du président de la République, le professeur Serge Tshibangu, qui s'entretient avec Emmanuel Elaminji Wakabiti.
Professeur Serge Tshibangu, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, quelle première lecture on pouvait faire à l'issue de cette tournée dans la partie est de la RDC?
Merci mon frère pour la question. Déjà, la première lecture, c'est que la plupart des groupes armés et même des leaders des communautés, partout où nous sommes passés, sont pratiquement réceptifs par rapport à la main tendue de son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui les appelle à déposer les armes, à rejoindre le programme PDDRCS, mais aussi un sentiment de satisfaction et de joie, surtout de la part des leaders de communautés qui se rendent compte effectivement, d'ailleurs unanimement, que le chef de l'État déploie tous les efforts pour pouvoir amener la paix à l'est du pays et au nord, dans la province de l'Ituri. Le fait que nous ayons rencontré les leaders des communautés, nous avons eu un aperçu clair de tout ce qu'ils ont vécu comme atrocité de la part de ces groupes armés.
Oui, et ces groupes armés, vous les avez rencontrés en Ituri, en Nord Kivu et au Sud Kivu. Est-ce que vous avez trouvé certains d'entre eux, les responsables directs ou les représentants, être favorables à la cessation des hostilités ou est-ce qu'ils vous ont donné quelques assurances?
Disons que depuis Nairobi 1, nous avons rencontré pratiquement 18 groupes armés, à part celui que vous connaissez qui avait été expulsé des discussions, dans les contrées sous contrôle, entre guillemets, de ces 18 groupes armés, depuis pratiquement avril que nous sommes rencontrés, entre les 23 et les 25 avril, jusqu'à ce jour, nous avons observé effectivement une accalmie. Et c'est depuis Nairobi que nous leur avons donné ce mot d'ordre de cesser le feu immédiat. Nous leur avons donné le mot d'ordre de, pour ceux qui détiennent des enfants soldats, de libérer ces enfants soldats. Je pense qu'avec la section de Child Protection de la MONUSCO, certains qui détenaient des enfants soldats sont en train de les libérer. Nous les avons également obligés de laisser passer les convois humanitaires, le kidnapping des chauffeurs et des personnels humanitaires. Et nous constatons effectivement qu'ils ont respecté cela. Nous avons passé le même message aux groupes armés que nous avons rencontrés à Goma, à Beni, à Bunia et maintenant Bukavu également. Et je pense qu'on n'a eu aucune résistance, sinon qu'ils sont prêts à cesser le feu, comme ils ont confirmé eux tous. Ils se sont engagés à cela, mais aussi se préparer à rejoindre le programme PDDRCS que le chef de l'État a mis en place pour leur permettre une réintégration dans la vie nationale.
L'autre côté du problème de cette insécurité dans la partie est du pays, principalement à Kinshasa, ce sont des politiciens, ce sont des hommes d'affaires. Est-ce qu'ils sont identifiés? Est-ce que vous les avez rencontrés? Comment ils apprécient la démarche en cours, le processus ou les efforts que vous menez actuellement?
Je pense que c'est l'occasion pour nous de mettre en garde ces tireurs de ficelles, ceux-là qui financent ces groupes armés, ceux-là qui arment même ces groupes armés, donc que ce soit des autorités, des officiels civils ou militaires, en leur disant que l'étau va bientôt se refermer contre eux. Parce que il y a également en parallèle au PDDRCS, il y a la justice transitionnelle. Et cette justice transitionnelle, c'est justement pour tous ceux-là qui auront été identifiés comme ayant participé indirectement aux crimes commis par ces groupes armés.
Professeur Tshibangu, Serge, comment vous appréciez à ce jour l'accompagnement de la MONUSCO et même toute la communauté internationale dans ce processus à ce stade?
Honnêtement, l'accompagnement de la communauté internationale, d'ailleurs représentée par la MONUSCO, est fantastique. Depuis le début, la MONUSCO a appuyé ce processus dans tous les domaines. Donc franchement, nous sommes très ravis de l'appui que nous recevons de la MONUSCO, de la communauté internationale. Vous avez vu déjà même depuis Nairobi la présence des représentants des Nations Unies, la présence des diplomates américains, des diplomates français. Donc cette mobilisation de la communauté internationale, nous sommes vraiment en train d'avancer grâce à ce soutien que nous recevons de tous ces partenaires de la communauté internationale.
Professeur Serge Tshibangu, je vous dis merci.
Merci, mon ami.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.